voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Partons en Inde, dans la ferme de solitude à Auroville. Krishna McKenzie a fondé sa ferme en s'inspirant des principes de Masanobu Fukuoka et de la permaculture. Rencontre avec Krishna dans sa ferme.
Devant nous, des choses qui sont savoureuses, qui sont goûtues, qui sont nées, qui ont grandi, qui ont poussé ici.
Oui, le guayave, ça portait le cœur de bœuf, le fruit là, super sucré, et le papaye, qui se trouve pas dans les magasins, les goûts de papaye comme ça.
Donc avec moi Krishna, on est sur la terre d'Auroville. Pour pouvoir faire ce qu'on a dans l'assiette là, des fruits, il faut qu'il y ait un travail en amont, un travail de la terre. Donc j'aimerais que tu me racontes un petit peu l'histoire de ce lieu, ce qui t'a amené ici et qu'est-ce qui a fait que tu décides de te lancer dans le farming, dans l'agriculture.
15 ans à 19 ans, j'étais dans une école de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti en Angleterre. Alors cette éducation m'avait donné... c'était une grâce, quoi. Une éducation qui ne me poussait pas, qui me pousse pas d'être ingénieur ou médecin ou quoi que ce soit, qui me poussait à trouver plutôt des. De me demander des questions plutôt existentielles. Et c'était un moment très dynamique à l'école. Krishnamurti, il vient de mourir il y a 2 ans. Et tout le monde, c'était comme une énergie très très forte à l'école. Et j'avais beaucoup de belles expériences, étudier le jazz avec des super musiciens, fait beaucoup de théâtre et recherche dans le scientifique, science. Mais c'était à ce moment que j'ai découvert Fukuoka, mon goût, ma grande inspiration. Et c'était le même temps que j'ai rencontré un monsieur Friedrich qui a vécu à Auroville. Il m'a parlé d'Auroville, il m'a montré que voilà, une vie près de la nature, pousser nos propres nourritures, c'est quelque chose faisable à faire dans la vie, c'est une chose qu'on peut faire si on veut. Et j'ai bossé beaucoup avec lui. Et je crois que la base de tout ce que j'ai fait maintenant, c'était compris avec lui. Il m'a montré que la nature, il n'y a pas de règles dans la nature. Il n'y a pas de concept dans la nature. La nature, c'est une divinité. Et que de remettre la matière organique, c'est la première et dernière technique et idée importante. Parce que si la terre elle est dynamique et fertile... tu s'émerges de là. Et enfin, c'est exactement ce qu'il parlait aussi, Fukuoka.
Ouais, donc la vie émerge d'une terre fertile. C'est hyper important de structurer ou de restructurer un sol, une terre, pour pouvoir faire émerger quelque chose de vivant.
C'est ça. Chaque civilisation sur cette planète, ils ont reconnu la divinité de la terre. Ils ont adoré la terre. En Europe, ils appellent Gaïa. En Sud-Amérique, Pachimama. En Inde, on les appelle Bhumidev. Mais ce n'est pas un concept, cette divinité, c'est une réalité. C'est les micro-organismes, c'est des petites vers de terre, c'est des insectes et des bactéries et des champignons. Et la vie dans la terre, c'est la fertilité. On peut dire la vie égale la fertilité. Ça, c'est l'équation de la natural pharma.
Mais c'est intéressant.
Ces mots, fertilité et vie, c'est égal à la mère de la terre.
Oui. Tu disais Gaïa, Pachamama, c'est vrai que de tout temps, de toute époque, l'homme adorait la terre. Mais aujourd'hui, l'homme a tendance à adorer autre chose que la terre. Notre dévotion s'est tournée plus vers la civilisation du matériel.
Bon, c'est l'argent qui est, comme la mère d'Auroville avait dit, non, l'argent c'est le seigneur tout le monde court derrière l'argent, mais et on a des valeurs qui sont vraiment, bon, ils sont à l'ouest, quoi. On valorise plutôt d'avoir une iPad et des Nike et faire les vacances en Thaïlande, avoir une Mercedes-Benz. Et, mais il n'y a plus d'eau dans les robinets à Chennai et dans certains endroits. Et l'air, c'est tellement mauvais que le cricket, le match de cricket à Delhi, c'était annulé la dernière année. L'année dernière, des gros matchs avec des sponsorisés de Pepsi, des dizaines de millions de dollars annulés parce que les joueurs, ils tombaient en pain. Ils ne pouvaient pas respirer. Tu vois, ces trucs, c'est tellement basse et on court derrière des valeurs qui n'ont pas de sens. Tu vois, on a un système d'éducation corrompu. Ça n'a pas de sens d'avoir une master's degree et devenir mieux que ton voisin quand il n'y a plus d'eau. Quand la nourriture qu'on trouve n'est pas bon et qu'on n'a plus de relation avec la fondation de nos vies qui est la terre, qui est cette divinité. Alors ce qu'on fait à Solitude-là, c'est vraiment de montrer une chemin de retourner pour retourner à la nature, pour retourner dans les bras de la mère de la terre. Et c'est un chemin très, 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 très simple. La simplicité, c'est délirant. Tu vois, il y a trois petites étapes. La première étape, c'est de reconnaître que toutes les matières organiques autour de nous, la bioressource, ça, c'est le profit. Ce n'est pas un profit financier, c'est un profit nutritionnel. Parce que quand on honore cette matière, remettre dans la terre, donc avec n'importe quelle technique, il y a divers moyens de façon de le faire, mais de remettre la matière organique dans les champs, ça c'est le premier acte d'amour, parce que ça rend la terre fertile, ça rend la terre dynamique, et ça c'est la première étape. Le deuxième, c'est après qu'on a cette fertilité, les vivants, c'est d'honorer tous les dons de la nature. Ici, sur la ferme, on a plus que 140 plantes qu'on mange dans l'année. Bien sûr, les papayes, les guayaves, mais aussi beaucoup de fleurs, beaucoup de racines, beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup, beaucoup de diversité. Et le truc intéressant, c'est que ces plantes, il y a beaucoup qui ne se trouvent pas dans les magasins, qui ont des caractéristiques très, très spécifiques. La première caractéristique de local food, c'est que ça pousse en abondance. Si ça pousse en abondance, ça utilise moins d'eau. Si ça pousse en abondance, c'est facile à pousser. C'est pas la peine d'être un grand fermier, il n'y a pas une question d'être expert de permaculture, tout ça, c'est tous des trucs d'ego presque. C'est un truc qui se passe facilement, c'est nos doigts de naissance d'avoir la relation avec ça. Après, quand c'est en abondance, la nourriture n'est pas exclusive. Si tu es riche, tu peux manger la pizza. Mais si tu n'es pas riche, tu n'as pas accès à ce sort de nourriture. Mais les nourritures locales, ça pousse partout. Alors ça a un bénéfice social, ça devient égal pour tout le monde. Après, la deuxième caractéristique de nourriture locale, c'est que ça n'a pas de prix écologique. Prix écologique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de transport. Bien sûr, il y a la question de le pétrole, l'essence et tout ça, mais aussi construction d'un camion. Imagine toutes les usines qu'on a besoin pour faire ça, des usines pour le métal, des usines pour la peinture, l'usine pour les pneus, pour le métal, pour le plastique, pour l'électronique, pour l'essence, c'est énormément d'emprunts charbon. Et on est là, on mange la pizza, on discute sur les panneaux solaires et la spiritualité, mais on n'est pas conscient. Qu'on mange trois fois par jour et on ne sait pas d'où vient nos nourritures. On ne sait pas qui a poussé la nourriture, on ne sait pas comment elle a été poussée, s'ils ont utilisé des chimies, et s'ils ont utilisé des chimies, quelle chimie. Et après, on ne sait pas comment c'était processé et comment c'était paqué et transporté. On est divorcé d'un acte qu'on fait trois fois par jour, chaque jour. On va le faire demain et après-demain. Et on ne sait pas d'où vient nos nourritures. Alors, ce nourriture locale qui se trouve autour de nous n'a pas de prix écologique. Notre caractéristique de la nourriture locale, c'est que ça a beaucoup plus de bénéfices médicinaux et nutritionnels. Ils sont vraiment des couleurs de la Ayurveda. C'est nourriture. Il y a la fleur bleue là, qui est vachement connue à Auroville, le Radha's Consciousness, Clitoria Tanatia. On fait des jus avec. Et c'est bon pour l'utérus, pour la mémoire, pour le cerveau, pour l'épilepsie. Tu vois, tu as t'as l'inium triangulare, une sorte d'épinard qui pousse partout, mais partout. C'est bon pour la fonction cognitive, c'est bon pour l'asthme, pour les femmes enceintes, même pour les virilités des hommes, tu vois, simplement ça fait tout. Et ça pousse partout, mais ça ne se trouve pas dans les magasins, ça ne se trouve pas dans les restos. Même le moringa, qui est vachement connu maintenant en Europe, parce que le UNESCO, ils disent que c'est une superfood, c'est une solution des protéines complètes avec toutes les aminoacides aussi, des fatty acides, des oméga 3, oméga 6, folic acide, les fers et tout ça. C'est connu dans la culture de Tamil Nadu. C'est connu dans les villages toujours. Mais dans les restos, ça ne se trouve pas. Tu vois, dans les magasins, ça ne se trouve pas vraiment. Ça se trouve des patates, des betteraves, des carottes, des choux, chou-fleurs, les poireaux. Mais ces plants, ces légumes, ils ne poussent pas ici.
Krishna, je vais te prendre la parole, sinon tu vas me faire un monologue et tu vas jamais t'arrêter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'uniformisation de la nourriture, des cultures dans tous les pays du monde. Avant de revenir ici à Auroville, tu as dit Solitude. Donc Solitude, c'est le nom de la ferme dans laquelle on se retrouve ce matin. Donc toi, tu es arrivé ici déjà il y a quelques années. Je veux quand même revenir au début de ton école éducation, Krishnamurti. Donc tu étais en Angleterre. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? En quoi est-ce que le système éducatif est différent? Quelles sont les valeurs qui t'ont le plus parlé?
Tu vois, il y a une diversité des profs là, qui ont une diversité de compréhension de l'éducation et de la vie et qui amenait des différentes expériences à les élèves. Et il y avait une liberté là, il y avait un espace. Tu vois, on n'était pas poussé à faire des choses. On était plutôt laissé. C'est comme un peu le natural farming de Fukuoka. On était laissé les choses évoluer. Tu vois, ça fait 23 ans que je fais Solitude et je n'étais jamais poussé par des groupes à Auroville de pousser cette quantité de ça, ou pousser ça, ou il faut que tu fasses de la production. Je n'étais jamais dit comme ça, jamais. J'étais toujours libre à trouver ma voie ici.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, Fukuoka, c'était... quand j'ai aidé à gérer le jardin à l'école Krishnamurti, j'ai rencontré des gens qui ont montré le livre et ça m'a vachement touché parce qu'à la base, Fukuoka, c'est une voie spirituelle, tu vois. Fukuoka disait c'est que l'agriculture, le but d'agriculture, c'est pas de pousser des plantes, c'est de pousser l'âme de l'être humain. Et... c'est toute la philosophie qui me donne l'énergie, tu vois, de découvrir. Et c'est plutôt une philosophie de ne pas faire. Quand j'avais la chance de les rencontrer il y a 16 ans à la ferme de Vandana Shiva, ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils disaient que seulement des bakas. Bakas, c'est une foule, un idiot, un fou. C'est que des bakas qui peuvent comprendre cette façon de faire, de se voir vers la nature, vers l'agriculture. Parce que la nature n'a pas de concept. La nature, on ne peut pas le connaître, la nature. Elle est vivante, quelque chose qui est vivant, on ne peut pas le définir avec les pensées qui sont que de le passé. Ça ne peut pas être mesuré par la science, par la physique ou la chimie. Tu ne peux pas le couper en morceaux et le comprendre et le remettre ensemble. C'est holistique, c'est une chose.
Et de cette notion de liberté aussi, de laisser faire, tu disais de don action, d'observer, oui. D'observation.
Oui, de ce qui est déjà là. Tu vois, c'est déjà là. Tout ce qui se passait à Solitude, tu vois, avec les AMAP, le café, les banques de graines, beaucoup, beaucoup d'éducation, même des festivals et les concerts, et comment il est le chant, les diversités. C'était déjà là. les potentiels. C'est pas parce qu'on était stratégique, on était plutôt idiot, bacard, comme il dit Fukuoka. Il n'y avait pas de stratégie. La stratégie, c'était de honorer la mère de la terre, de honorer, on remet la matière organique et de valoriser les dons de la nature. Tu vois, c'est ça. Et après, honorer la communauté autour de nous, reconnaître la créativité dans nos communautés et essayer de partager toutes ces valeurs dans nos communautés avec les célébrations. Mais c'était tous déjà là. Et c'est ça la beauté, qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe ici, mais tout le monde peut le faire. C'est pas parce que c'était pas nous qui est spécial. C'est la terre, elle est divine.
La terre, quand tu es arrivé ici, Krishna, donc tu dis de 20, 22 ans, 23 ans.
C'est à Rovi, c'est 26 ans, et à Solitude, j'ai commencé en 96.
Donc quand tu es arrivé ici en 96, il y avait quoi? Il y avait déjà un couvert végétal? Il y avait déjà de la matière organique dans le sol, ou il a fallu du tout restructurer?
Oh non, c'était pas ici, tu vois, c'était pas le désert, par exemple, comme à Pebble Garden avec Bernard et Deepika, et c'est des gourous pour moi. Eux, ils sont recréés les petits cailloux, quoi. Et c'est un délire ce qu'ils ont fait. Ici, il y avait quand même une structure de terre. C'est pas si mal. Mais il n'y avait pas de végétation. Il y avait très, 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 très peu. On avait remis beaucoup, 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 beaucoup de matière organique dans la terre. On continue à faire ça. Et ce qui est maintenant, c'est une diversité qui est de plus en plus en permanence. Et de plus en plus, les plantes qui sont venues toutes seules et qui ont valeur, ces plantes, ces poissons qui sont de plus en plus. Ouais.
C'est quoi le projet ici à Solitude Farm?
Le projet, c'est maintenant, on a des champs qu'on continue à... On vit avec, c'est nos vies, quoi, les champs, de planter, récolter, de pailler, irriguer, un peu à droite à gauche, un peu désherber des fois, ici et là. Et après, on a le café et on fait un peu de food processing, des confitures, des pickles, des poudres, des fleurs sèches, des médicaments aussi. On fait après on récolte beaucoup de graines, on fait beaucoup de seed saving. Après il y a beaucoup de groupes qui viennent ici. Maintenant, après que les derniers 3 mois, c'est devenu vachement connu à cause des télévisions et tout ça, il y a beaucoup de groupes qui viennent. Et je fais beaucoup de stages aussi, de permaculture, toujours intégré avec des cuisiniers, des plantes locales, récolter, cuisiner, manger. Oui, on fait tout ça. Le grand but, c'est de créer d'essayer de manifester ce qu'on a fait ici avec d'autres fermiers. Parce que nous, on a quelque chose de bien qui se passe ici. Simplement d'honorer les plantes locales. Alors si nous, on peut le faire, pourquoi pas d'autres personnes ne peuvent pas le faire? Surtout, on veut bosser avec les AMAP, avec les fermiers locaux. C'est une sacrée histoire de faire ça. Parce que c'est les fermiers, ils peuvent faire la permaculture, ce n'est pas difficile. Ils ont toute cette connaissance de cette plante, de ça, et comment le faire. Le plus tôt, c'est l'éducation des consommateurs et le travail avec les écoles, faire beaucoup de communication.
Le facteur humain, finalement, c'est ce qui est le plus difficile dans un projet, c'est d'arriver à faire des choses ensemble.
Ah oui, le facteur humain, mais c'est le même partout. La permaculture, c'est facile. Le côté humain, c'est là où on se coince et on se perd. Je sais pas, j'ai la grâce, comme j'ai dit, la grâce de après 23 ans, que les derniers 3 mois, il y a beaucoup d'intérêt dans ce qu'on fait avec les Tamuls, parce que j'ai fait toutes mes interviews en tamul. Il y avait une hier qui est sortie sur la télé. Il y a un intérêt. Les gens sont intéressés parce qu'ils se rendent compte que c'est leur culture, c'est leur identité culturelle de ce qu'on parle. qu'on parle de la moringa, c'est ça, c'est d'être tamul, c'est bah, manger du moringa chaque semaine. C'est parce qu'on est tamul, c'est une identité culturelle, nutritionnelle.
Et aussi un bon sens, peut-être aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Occident, enfin que le monde, que l'humanité est en train de se perdre dans une illusion. Tu parlais avant du dollar, de l'argent, et donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi cette notion de sens. Les gens sont en train de rechercher le sens, on se rend compte que la planète, c'est elle qui nous fait vivre, qui nous nourrit. Pendant longtemps, on a oublié qu'on dépendait d'elle, et aujourd'hui, il y a peut-être ce retour de se dire, mais en fait, on allait trop loin dans nos excès matériels, et on se reconnecte à cette source, à ce vivant.
Oui, je crois que les gens ils pensent pas jusqu'à là. Je crois que si on commence à honorer nos identités culturelles au travers les nourritures qui sont locales, qui sont parties de nos cultures, ça nous amène à ça naturellement. Ça nous amène à des valeurs plutôt essentielles. Ça nous amène à un point où on ne détruit pas la planète, où on devient plus sensible de ce qui est autour de nous et de ne pas rechercher des choses qui n'ont pas de sens parce qu'on est nourri de quelque chose qui a une valeur. Mais les gens, ils ont besoin de quelque chose vraiment réel, tu vois. Ce n'est pas que tout le monde est dans une « oh oui, on a trop fait ça ». Les gens ne réfléchissent pas. Les gens sont dans une vie, tu vois, avec des enfants et l'école et le boulot et le mariage. Ils ont besoin d'une solution. Tu vois, c'est quelque chose de très réel. Et la solution que nous, on propose, qu'on montre à le quotidien ici à Solitude, c'est que les nourritures locales, qui ont beaucoup de bénéfices, moins d'eau, pas de prix écologique, plus de bénéfices nutritionnels, médicinaux, une valeur culturelle, sociale, écologique, toutes ces valeurs sont réelles et les gens, ils connaissent ces nourritures toujours parce qu'ils n'ont pas perdu la culture. Par exemple, si on parle de ce sujet en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué. En Angleterre, c'est quoi la culture? C'est la bière et le foot. Tu vois, on ne sait pas d'où viennent nos nourritures. On ne sait pas quelle nourriture on mange, dans quelle saison. Peut-être en France, c'est un petit peu plus quoi, de culture, mais en Angleterre, c'est grave. Mais ici, en Tamil Nadu, si on parle de la tige de la bananier, le fleur de la bananier, le turkey berry ou cet épinard, cette fleur, les gens ils savent de ce que je parle toujours. Alors ils peuvent rattraper leur identité culturelle, nutritionnelle, plus facilement. Et simplement par manger ça, ça nous amène vers la nature, vers des valeurs qui sont pas destructives.
Krishna, est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu es content du chemin que tu as parcouru depuis ta sortie de l'école en Angleterre?
Oh, je crois pas. Je crois que si je ne serai pas content, je ne le ferai pas. Quoi. Mais content, c'est vachement éphémérel, non? C'est content, on est content un jour, on n'est pas content un autre jour, mais en tamil, on dit que c'est notre talavidi. Talavidi, c'est le destin qui est écrit sur la tête. Chacun est sur le... Je sais pas, ça fait longtemps que je fais ça et tout s'épanouit vachement maintenant. C'est très beau ce qui se passe ici et je me sens personnellement une énorme de responsabilité à partager ça en Tamil Nadu, surtout peut-être plus en Inde aussi. Je sais que c'est facile. Je sais que c'est pas difficile. Tout le monde peut le faire. C'est un truc qui a besoin un peu d'organisation, un peu de communication. Ça a besoin un peu d'intention.
Et ça permet de nourrir surtout l'humanité, nourrir l'homme.
Nourrir l'homme sur chaque aspect de son existence, médicinalement, éducationnel, nutrition. Et pas détruire l'environnement et adresser plein de problèmes, ce qu'on a avec l'eau, avec plein de niveaux. Quoi.
Est-ce que tu peux me parler du côté autonomie? Est-ce que tu as réussi à développer ici, dans ta ferme Solitude, une forme d'autonomie?
Autonomie, du vrai autonomie, c'est énorme, tu vois. Moi, je ne sais pas si je vais en Angleterre, je vais aller sur un avion, quoi. Alors, laisse tomber, j'utilise une cell phone, non, une mobile, quand tu dis ça,
un
téléphone. Alors, laisse tomber, on est tous dans une économie extractive, tu vois. Tout ça prend de la terre. J'ai une copine en Kerala qui gère un projet de rainforest. Et elle a 64 acres. Et cet acre de rainforest qui est primeval, des dizaines de millions d'années. Tu vas dedans avec des tribaux.
Primaire.
Et tu vas dedans avec des tribaux et tu demandes les tribaux, mais quand est-ce que vous êtes venus ici? Je dis, on était ici depuis depuis le début. C'est des dizaines de millions d'années, c'est un délire. Et on voit que ça, c'est pas extractif. Alors, autonome, on ne peut pas parler de ça vraiment. Pourtant, de plus en plus, on pousse nos propres nourritures avec moins d'eau. Et on partage ça avec des gens. Et ça nous pousse à recycler l'eau. Ça veut dire ça nous pousse à faire nos propres savons, parce qu'il ne faut pas polluer l'eau si tu veux le recycler. Ça nous pousse à découvrir les valeurs dans la nature avec les graines, avec les valeurs médicinales de les plantes. C'est clair, tu vois, une renaissance de bien-être, ça commence avec une bien-être de la terre. Elle a une trésor pour nous offrir. Après, d'arrêter d'utiliser les téléphones et une moto, et ça c'est une autre étape. Mais il y a quelque chose que ça qui se passe ici.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc solitude, les gens, tu disais, viennent en groupe, donc c'est essentiellement pour découvrir le farming, l'agriculture, la permaculture. C'est quoi, qu'est-ce que tu mets en avant ici?
Y a différentes sortes de groupes. Il y a des fermiers, des women's groups, des enfants, des gens qui sortent du informatique et plein de différents gens. Ce que je fais souvent, c'est de lui montrer la ferme et expliquer un peu la crise qu'on est dedans, dans nos sociétés, et quelles sont les solutions. Et après, on fait souvent la récolte d'une vingtaine, trentaine de différentes mauvaises herbes, plantes, fruits. Et on fait des salades, des sortes de chutney et des jus avec. Après, on les mange. Et quand ils le mangent, ils savent de ce que je parle est vrai. Parce que ça a tellement de bon goût et c'était tellement simple l'expérience pour eux de les récolter, de les préparer, de les manger. Et on lui montre que ça c'est une voie, ça c'est une possibilité. Après ils mangent dans le café, après ça c'est une atelier que je fais souvent avec des gens, c'est les secrets de nos salades. Mais aussi je fais des petits jardins, des petits circle gardens, ça c'est un bel projet pour faire avec des enfants. Parce que c'est facile à faire. Tu vois, c'est pas trop grand. Si c'est un grand champ, pas tout le monde va faire des grands champs. Pas tout le monde sont fermiers. Mais tout le monde peut avoir une petite ronde de 3 mètres, de 2 mètres carrés, quoi. Et je fais aussi des formations de week-end un peu intensives où on fait ça. Mais aussi, on fait des champs, on explore des graines, le pépinier. Oui, je fais tous ces niveaux. Après, maintenant, je fais beaucoup des universités me demandent de venir parler à les étudiants. Mais...
Donc essentiellement pour le public tamil, en fait.
Oui, hein. Pour les publics tamils. Mais c'est un peu... Ça me parle pas trop d'être sur une scène et de parler. C'est mieux que les gens sont dans les champs et on peut les récolter, on peut les toucher, on peut les manger. Juste un truc cérébral, ça va pas très loin. Il faut qu'il y ait une expérience derrière pour que ça ait un sens. Oui.
Merci Krishna.
Thank you so much.
La voix du Kaizen. Une émission de Kaizen Magazine.